Je vous salue chacun et c'est vrai que je ne sais pas pourquoi il y a des combats quand on prépare un message, en tout cas c'est le cas pour moi, parce que quand je me trouve devant vous, j'ai une joie réelle et profonde de partager la parole de Dieu. Yves le soulignait, nos rassemblements laissent une large place à la louange et Dieu, cela lui plaît, je le sais. Mais il veut qu'on laisse une large place aussi à l'étude de sa parole, parce que notre foi repose sur ce qui nous a été transmis. Il y a une révélation par le Saint-Esprit, et c'est vraiment l'application de la parole par le Saint-Esprit à nos cœurs qui change des vies. Et nous avons besoin de connaître la parole. Pas une connaissance qui enfle, mais un amour qui édifie. Cette parole qui nous a été donnée par le Père pour nous révéler. Nous avons vécu avant de connaître les réalités spirituelles, la réalité de Dieu, la réalité de Jésus-Christ, mais nous étions dans l'ignorance. Nous croyions être libres, mais nous étions esclaves. Et la parole nous amène, nous pose la vérité dans nos cœurs et les transformations peuvent venir. Yves l'a rappelé, c'est la Pâque. Alors, vous savez, j'ai toujours, par rapport à ces célébrations, la Pâque est la première des fêtes juives qui marque la sortie d'Égypte. Et c'est vrai que le Seigneur a demandé à son peuple selon la chair, le peuple hébreu, de faire mémoire à perpétuité de cet événement tout à fait extraordinaire. Je ne vois pas particulièrement qu'il nous demande à nous, nous sommes nés de nouveau, de le faire, mais on va saisir toute occasion. On va saisir toute occasion parce que, et je ferai à cette occasion donc un parallèle entre les récits de l'Ancien Testament, en l'occurrence qui datent 3500 ans. Les récits qui nous ont été donnés, Yves a lu l'Exode 12, de versets 1 à 11, c'est assez curieux parce que moi j'ai prévu de commencer au verset 12, donc comme ça on aura gagné déjà un peu en lecture, vous êtes déjà introduit dans le sujet. Le lien entre ce qui s'est passé là il y a 3500 ans et ce que nous dit Paul dans un chapitre de lettre aux Romains, Romains 6, je ferai ce parallèle, je passerai de l'un à l'autre, parce que je crois que ces choses-là aussi fortifient notre foi. De savoir que ce que Dieu a fait à travers son peuple, vous savez que c'est vraiment quelque chose qui m'est cher, qui est fort, peut-être quelque chose que le Seigneur m'a donné le jour de ma conversion, comment il y a une réponse sans cesse entre les textes de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, entre l'avant-venue de Jésus-Christ et puis la pré-Pentecôte. C'est extraordinaire. On est là, donc ces deux textes, du coup, se trouvent à 1500 ans d'écart, et pourtant, ils nous parlent bien des choses. L'Ancien Testament nous a été donné comme un précepteur pour nous conduire à Christ. Toutes ces choses nous ont été données pour nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Donc cet événement tout à fait extraordinaire de la Pâque, nous en considérerons deux temps particuliers de ce si grand sauvetage ou de ce si grand salut. D'une part, le sang sur les portes et sur les linteaux qui va permettre à ceux qui ont cru et obéi d'être épargnés, car la racine du terme Pâque, c'est cela. C'est, littéralement, c'est être épargné, c'est passer outre. C'est-à-dire dans le sens d'être épargné. Et effectivement, on lira dans le texte exactement ce qui est dit dans la parole, c'est que la vue du sang, l'Éternel qui a résolu un jugement sur le peuple d'Égypte, va passer outre. Dans Exode 12, au verset 23, « Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. » Être sauvé consiste donc à échapper au jugement de Dieu qui vient sur le monde, qui est opposé à lui. Dieu, n'oublions pas, a résolu un jugement sur l'Égypte, qui est vraiment le symbole du péché, de l'idolâtrie, de la connaissance de l'homme. Hein, on admire les pyramides, etc. Et ça, c'est vraiment l'image du péché, c'est-à-dire de la connaissance de l'homme indépendante et qui rejette Dieu. Être sauvé consiste donc à échapper à ce jugement qui vient sur le monde. Dans ce salut, c'est Dieu qui fixe le plan et informe du mode opératoire. Le mode opératoire, en l'occurrence, se tenir à l'intérieur d'une maison sur laquelle il y aura eu une aspersion du sang. Pas très compliqué, sauf que cela demande deux choses, de croire ce que Dieu a dit. Dieu a dit, je passerai sur l'Égypte, je détruirai tous les premiers-nés, mais je passerai outre les maisons où vous aurez immolé un agneau sans défaut d'un an, et vous aurez aspergé le sang en le trempant dans la bassine, et vous aspergerez sur les poteaux et sur les linteaux. Et tous ceux qui se tiendront dans ces maisons seront épargnés. Donc le salut, c'est être épargné, n'oublions pas. Ça veut dire que sans le sacrifice de l'agneau et le sang qui a coulé, nous sommes fichus, c'est terminé. Nous sommes traités comme les Égyptiens. N'oublions pas que le salut, c'est donc être épargné, être mis à part, être sorti par une grâce souveraine. Nous notons dans ces passages que le salut est déjà ouvert à l'étranger, c'est-à-dire à celui qui n'est pas hébreu. Pourvu, je ne peux pas reprendre tous les textes, mais je vous invite à relire donc Exode 12 à 14 et puis Romains 6, puisque c'est là-dessus que je vais beaucoup m'appuyer ce matin. C'est intéressant de voir que Dieu d'abord s'adresse à son peuple, au peuple hébreu, et lui donne cette ordonnance pour la Pâque. Et il dit, l'étranger et le mercenaire n'aura pas droit. Et puis, deux phrases après, il dit, même l'étranger pourra être au bénéfice, pourvu que il soit circoncis. Nous savons aujourd'hui qu'il ne s'agit pas de la circoncision de la chair, alors de quelle circoncision? Il sera sauvé pourvu que son cœur soit circoncis. Ça, c'est le Nouveau Testament qui nous l'enseigne. Déjà, il y a 3500 ans, le plan de Dieu extraordinaire a prévu le salut pour tous ceux qui ont le cœur vivement touché par ces paroles de vérité. J'en profite pour dire qu'il ne suffit pas de connaître pour être sauvé. Il ne suffit pas d'avoir même la connaissance exacte du plan du salut, de ce qu'est la grâce, de la puissance du sang. Cela ne suffit pas. Il faut avoir une circoncision du cœur, c'est-à-dire avoir le cœur humilié, parce que cette connaissance a eu un impact dans nos cœurs. On a vu notre misère. Et alors, nous avons le cœur vivement touché. Je vous rappelle que la Pentecôte, dont nous réclamons si souvent, c'est ce qui s'est passé. Ils eurent le cœur vivement touché par le récit de Pierre, qui a décrit ce qui s'est passé, qui a décrit lui aussi le plan du salut. Alors, je vous ai dit que j'examinerai deux choses. Je suis là dans l'introduction, parce que nous connaissons ces choses. Le sang qui nous purifie de tout péché, nous connaissons ces choses. Mais donc, après le passage du jugement sur l'Égypte, quelle est la situation? Tous les premiers-nés d'Égypte sont morts, et tous ceux qui étaient dans les maisons sur lesquelles le sang avait été répandu sont vivants. Oui, ils sont sauvés du jugement de Dieu sur le monde impie. Voilà la réalité, voilà où nous en sommes, à l'issue de la nuit où l'ordonnance de l'aspersion du sang sur les portes ou sur les linteaux a été donnée. Tous ceux qui étaient à l'abri du salut prévu par l'Éternel sont vivants. Voilà ce qu'est le salut, c'est d'avoir échappé à un jugement mérité en se réfugiant en Christ. Ils sont donc, on est bien d'accord, je vais pas à pas, ils sont donc sauvés. Pour autant, où se trouve le peuple hébreu après ce si grand salut? Le savez-vous? Où se trouve-t-il? Eh bien, figurez-vous qu'il se trouve toujours en Égypte. Il se trouve toujours en Égypte. Et la suite du texte nous montre que cette situation est problématique. Alors ce matin, je vous invite à considérer de plus près en quoi cette sortie d'Égypte et la séparation absolue par la mer Rouge entre l'Égypte et les sauvés est importante. Et c'est le titre de mon message, extrait de Romains 6, « Mort au péché, vivant pour Dieu ». L'Égypte, c'est le pays de l'esclavage sous Pharaon. Le texte de l'Exode nous rappelle que le peuple est resté 430 ans en Égypte. Ce n'est pas rien, et ça installe des réflexes conditionnés. 430 ans, dont de nombreuses années, on peut dire plusieurs siècles, un peuple qui est réduit à l'esclavage. Donc le peuple est sauvé au moment où je vous parle, où j'en suis de mon récit, comme nous le sommes, et nous connaissons ces choses, mais Dieu sait que notre passé nous a marqués et qu'il peut ressurgir à tout instant. Nous allons lire dans Exode, chapitre 13, verset 17. Vous me suivez? Ceux qui étaient dans les maisons sont sauvés, mais ils sont toujours en Égypte. Exode 13, verset 17. Nous allons franchir un pas là. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Incroyable. Un peuple qui vient d'être épargné, qui a vu que le jugement de Dieu est tombé, mais pas sur eux. Un peuple qui est sauvé, comment pourrait-il retourner dans la nation qui l'a tenu en esclavage si longtemps? Si Dieu écrit cela, c'est qu'il sait que le risque est énorme. Alors, je n'ai pas eu le temps, il va falloir que je fasse cette diapositive pour comprendre ce passage. Si vous avez une toute petite notion de géographie, je suis très mauvais en géographie, mais enfin, vous avez l'Égypte qui borde la Méditerranée et puis Israël. Il y a une continuité de la côte. Je n'y suis pas allé, moi, mais c'est du sable, ou même si c'est des galets, c'est le niveau zéro par rapport à la mer. Ça, il y a une chose qui est certaine, c'est que sur le rivage, on est au niveau zéro par rapport à la mer, même si ensuite il y a une montagne. Et donc, c'est très facile de passer d'un pays à l'autre, de passer de l'Égypte à Canaan, la terre promise, en passant par la côte. Vous êtes d'accord? Or, c'est quand même la promesse qui a été faite à Abraham, qu'il aurait ce beau pays où coule le lait et le miel. Pour l'instant, il y a les Héviens, les Jébusiens et tout un tas de nations idolâtres. Et on est bien d'accord, Dieu veut faire sortir son peuple d'Égypte. Il le sauve, il le garde en vie, parce que faire sortir des morts, ce n'est pas très intéressant. Donc, il le garde en vie pour le faire sortir. Et le chemin le plus court, franchement, c'était de passer par la côte. Et pourtant, il est écrit explicitement, Dieu ne conduisit point par le chemin du pays des Philistins, par la Palestine, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Effectivement, pour l'accomplissement des promesses, il y aura des combats. Pour la conquête de Canaan, il y aura des combats. Mais on n'en est pas là. Pour l'instant, on est en Égypte. On est sauvés en Égypte. Et Dieu dit, je ne vais pas les faire passer par le chemin le plus court. Je vais les emmener au désert. je peux vous dire qu'il a fait un sacré détour. Donc il va sortir d'Égypte. Pour l'instant, il n'est pas sorti. Et il prend un chemin vers le désert. Et on voit un peu plus loin que Dieu va amener maintenant son peuple face à un obstacle infranchissable, la mer Rouge. Donc Dieu sait que son peuple est sauvé, mais que devant les combats qui peuvent se présenter, il peut être tenté, aussi surprenant que ça puisse paraître, de retourner vers ceux qui l'avaient asservi. Cela arrive dans des vies de gens qui sont sauvés. Ce n'est pas tout. Pharaon qui a fini par lâcher prise devant cette dernière plaie, c'est-à-dire la mort de tous les enfants aînés dans chaque famille, il a fini par dire « quittez ». Satan finit par lâcher prise dans des vies que Dieu veut sauver. Mais vous allez voir l'importance d'être sorti d'Égypte parce que le Pharaon, là, alors que le salut est opéré, alors qu'il a été obligé de lâcher prise, d'un seul coup, il se ravise. Il dit, mais qu'est-ce qu'on a fait ? Exode 14, verset 5 dit « Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services ?» Il ne faut pas oublier que celui qui réduit un peuple en esclavage, il le fait sans doute pour dominer, mais aussi pour des intérêts très pratiques. Très pratiques. Le peuple hébreu était au service de l'Égypte. Avant d'être sauvés, nous étions au service de l'ennemi de nos âmes qui nous pilotait. Frères et sœurs, même si vous n'avez pas eu une vie de débauché, votre pensée était asservie à la pensée du monde, c'est-à-dire à des choses terrestres, à l'intérêt, à l'égoïsme, bien habillé, bien moral même. Nous étions asservis, mais nous ne le savions pas. Ce que Dieu fait, c'est qu'il nous ouvre les yeux sur la réalité. Lorsqu'on a été sous des joues des exigences, pour le peuple hébreu, c'était, rappelez-vous, alors même que Dieu annonce qu'il va sauver son peuple parce qu'il a vu sa misère, la misère de ce peuple augmente, le joug devient plus pesant, ils étaient réduits des âges en un esclavage terrible, faire des briques, ils étaient obligés de piétiner avec leurs pieds la boue et la paille pour faire des briques, eh bien, l'ennemi, Pharaon, va leur dire « Désormais, vous ferez la même quantité de briques et vous irez chercher la paille. » Et il ajoute « Vous êtes des paresseux. Vous êtes des paresseux. Vous ferez des briques la même quantité, vous irez chercher la paille. » Des paroles moralisantes ont pu venir aussi sur nos vies. Tout un tas de « Tu dois faire ceci, tu dois faire cela » pour faire plaisir, pour être aimé, pour être correct religieusement, pour être mieux que celui-ci ou celui-là. C'est ça l'esclavage de l'Égypte. C'est ça l'esclavage du péché. C'est pas simplement de conduire, c'est des joues qui sont sur les vies. Voilà les techniques que l'ennemi de nos âmes réactive pour nous effrayer au point où bientôt nous pourrions dire, mais dans le fond, ma vie était plus simple avant. C'est ce que va vivre le peuple hébreu, effrayé par la vue de Pharaon, et je vous propose de lire dans Exode 14, les versets 10 à 12. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux
Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Le passé se réveille. Ils dirent à Moïse, ils vont accuser le conducteur Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Frères et sœurs, c'est un peuple sauvé qui parle ainsi. C'est un peuple sauvé de la mort éternelle qui parle ainsi. Finalement, c'était mieux avant. C'était mieux avant. J'avais de meilleurs contacts avec mes amis, j'avais plus d'amis, puis finalement la vie, je pouvais... Oh, c'était plus sympa dans le fond. Depuis que je me suis converti à Jésus-Christ, j'ai que des ennuis. J'ai que des ennuis. Ça s'empile, ça s'accumule. Est-ce que j'ai bien fait dans le fond ? Frères et sœurs, il y a là quelque chose de sérieux. Beaucoup de chrétiens, pas seulement des nouveaux convertis, se perdent en route parce que, bien qu'ayant cru dans le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ à la croix, ne sont pas sortis d'Égypte. Vous me direz, mais pasteur, pourtant ils ont été baptisés par immersion, oui. Mais une séparation n'a pas été acceptée. Des ficelles, des liens avec l'Égypte ont été réactivés. Ils n'ont pas compris l'importance d'une œuvre tout aussi nécessaire que la justification par grâce au moyen de la foi. C'est ce que Moïse expose au peuple. Alors, le salut, c'est la justification par grâce au moyen de la foi. C'est ce que Luther et Calvin ont redécouvert il y a 500 ans. Oui, c'est cela. C'est le sang qui est tout-puissant pour nous purifier de tout péché. Mais ce n'est pas que cela. Tandis que le peuple est saisi par la frayeur à la vue, notez-le, à la vue des armées de Pharaon, voici ce que déclare Moïse. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. » Garder le silence, ça veut dire croyez à ce que Dieu dit et à ce qu'il va faire. Ne commencez pas à phosphorer. La séparation que Dieu va mettre entre son peuple sauvé et l'Égypte, c'est la mer Rouge. Essayez pas de prendre votre bol ou votre louche pour vider la mer Rouge. Vous n'y arriverez pas. Ça, c'est l'œuvre de Dieu qui ouvre pour que vous passiez et qui referme pour faire une séparation. Et à ce stade, je voudrais que nous lisions Romains 6, les versets 1 à 14, parce que c'est un autre aspect néo-testamentaire et qui nous concerne donc et qui est capital dans la marche chrétienne. Romains 6, les versets 1 à 14. Paul vient d'exposer en Romains 5 le salut par la grâce. Paul vient d'expliciter dans Romains 5 la puissance du sang sur les portes et sur les linteaux. C'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Là où le péché a abondé en Égypte pendant 430 ans et dans nos vies, la grâce a surabondé. Amen. Et il continue en Romains 6. Que dirons-nous donc, frères et sœurs, puisque la grâce a surabondé, eh bien péchons ! demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? On va honorer le Seigneur, il est mort alors pour nos péchés, la grâce a surabondé, profitons-en. Frères et sœurs, bien sûr, ce matin, vous dites, mais non, c'est pas possible, vous avez raison. Mais c'est ce qu'on voit souvent aussi. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fut détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Alléluia. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, Christ est mort, Jésus-Christ, vrai homme, vrai Dieu, est mort, et c'est pour le péché, et c'est à cause du péché qu'il est mort une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Et voici un verset central, ainsi vous-même, ainsi nous-mêmes, regardons-nous. Descendons du vélo pour nous regarder pédaler. Regardons-nous comme morts au péché, vivants pour Dieu. J'ai oublié quelque chose, vous avez lu dans votre texte. Vivants pour Dieu en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. On ne sort pas de la maison où le sang a été projeté. On sort avec l'abri. On sort en Christ, sinon on ne sort pas. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, ou si vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort. L'anneau de Dieu a été immolé et j'ai été épargné. Le jugement n'est pas tombé sur moi. C'est cela la Pâque pour nous. Christ, notre Pâque, a été immolé. Pour autant, allez-vous rester dans ce qui faisait votre vie avant d'être sauvé ? Car si Christ est mort pour les péchés et s'il a vaincu le péché, la puissance du péché demeure dans le monde, frères et sœurs. Nous ne sommes pas sur le paradis terrestre. La parole ne déclare pas que le péché est mort, mais elle dit que ceux qui reconnaissent que tout a été accompli lorsque Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé, reconnaissent aussi qu'ils sont devenus une même plante avec Christ dans sa mort. Ce n'est donc pas le péché qui est mort, c'est moi, c'est toi qui es mort avec Christ il y a 2000 ans. Frères et sœurs, le péché n'est pas mort. Le péché n'est pas mort. Pas besoin de faire gros efforts et de tourner votre regard pour voir que le péché n'est pas mort. l'Égypte fonctionne à plein. C'est cela que Paul nous enseigne, à l'impératif, s'il vous plaît. Regardez-vous, ce n'est pas une option, regardez-vous comme mort au péché. Est-ce que nous vivons cela? Est-ce que tes œuvres et la vie que tu avais en Égypte est maintenant engloutie au fond de la mer? Je sais que Luther a dit, ou qu'on lui attribue cette phrase, « J'avais cru noyer mon vieil homme lors de mon baptême, mais le bougre, il sait bien nager. » Mais Paul insiste, lui. Paul va plus loin que Luther. Il dit « Regardez-vous comme. » Vous n'êtes pas mort, puisque vous êtes vivant, là. Mais êtes-vous mort au péché? Le péché n'est pas mort, mais vous, êtes-vous mort au péché? Paul nous rappelle en fait que la mer Rouge nous sépare désormais de l'Égypte. Ce n'est pas vous qui avez ouvert et refermé la mer Rouge, ce n'est pas moi qui ai ouvert et refermé la mer Rouge. Dieu connaissant notre faiblesse a réglé ce problème. Pour son peuple, par la mer Rouge physique, pour nous, par la parole et la révélation qu'il donne à Paul de ce qui est accompli à la croix. Nous avons été pris avec Christ dans sa mort. Nous avons été une même plante. Nous sommes passés par le même tombeau, par le même fond de la mer Rouge. Et c'est pour ça que nous pouvons marcher en nouveauté de vie. Nous ne pouvons pas, par notre volonté, dominer sur cette puissance du péché, mais par la foi, en cette parole, Romains 6, 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ces choses nous sont révélées. Paul sait qu'il ne suffit pas d'être baptisé pour comprendre ces choses, parce qu'il commence son paragraphe en disant « Ignorez-vous, vous tous qui avez été baptisés ?» Ça veut dire qu'on peut être baptisé et ignorer ces choses et ne pas encore être entré dans cette dimension, mais nous sommes invités à le faire. Nous sommes invités à le faire, frères et sœurs, pour vraiment marcher en nouveauté de vie. Pour aller au bout du salut qui a été accompli à la croix. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Si vous vous considérez comme mort au péché par la foi, reconnaissant la puissance de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, frères et sœurs, vous pouvez obéir et accepter cette conséquence que Paul dit de son propos, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Paul s'adresse à nous, c'est curieux, comme si nous n'étions pas notre âme, comme nous n'étions pas notre corps. Effectivement, il s'adresse à notre esprit qui a été régénéré, qui a été reconnecté à Dieu. Et nous avons, il s'adresse, et nous pouvons parler comme David va dire, « Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, dis de ta part, je cherche ta face. Ne me cache pas ta face, ô Éternel, parce que je la cherche. » Comme s'il y avait une déconnexion. C'est normal. Nous ne sortons pas de notre corps. Paul l'a peut-être vécu. Mais nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est à cet homme-là, à chacun de nous, assis dans les lieux célestes, que ces paroles sont adressées et que nous pouvons les recevoir par l'Esprit. Par l'Esprit. Je ne fais pas un discours mystique, je m'en tiens à la parole de Dieu. Nous sommes appelés à croire cela, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Pourquoi il nous dit ça? Parce que la puissance du péché, c'est-à-dire la capacité de pécher, demeure dans notre corps aujourd'hui marquée par la chute. C'est vrai, c'est un fait, c'est un exposé qu'il nous fait. La capacité à pécher demeure en nous le savons bien. Mais Paul nous dit que puisque nous avons été pris avec Christ dans sa mort, nous devons nous regarder comme morts au péché et que le péché ne doit plus régner. Le potentiel est là, mais ce n'est plus lui qui règne. Cette puissance est là, toujours cachée, couchée à notre porte. Mais nous avons désormais la possibilité de la tenir assujettie, et cela parce que nous connaissons cet aspect de la croix. Notre conscience a été éclairée. Nous avons compris qu'alors que nous nous croyions libres avant, nous étions tenus en esclavage par le diviseur, par l'ennemi de nos âmes. Mais aujourd'hui, nous sommes appelés à nous regarder comme morts au péché et vivants pour Dieu. Vous étiez, nous étions esclaves, maintenant vous êtes réellement libres. Jean 8, 32. Si vous demeurez dans ma parole, ce que nous faisons ce matin, vous êtes mes disciples, vous n'êtes pas simplement des sauvés. Vous connaîtrez la vérité, nous lisons et nous recevons la vérité de Dieu. Et vous êtes réellement libres cette fois-ci. Jean 8, 32, mais aussi Galates 5. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude. Ne retournez pas en Égypte. Même si vous êtes effrayés, sachez que vous êtes sauvés et qu'il y a cette séparation. La mer s'est refermée sur l'Égypte, sur les guerriers qui voulaient vous détruire. La mer est refermée si, vous savez, vous êtes passé au tombeau avec Christ. Frères et sœurs, notre conscience a été éclairée, rendue pure, si du moins nous avons connu Christ. C'est-à-dire qu'elle a été reprogrammée selon la constitution du royaume de Dieu, afin que l'on sache que ce qui est bien, c'est ce que Dieu déclare bien, et que ce qui est mal, c'est ce que Dieu appelle mal, et non pas notre propre jugement des choses. Pierre, dans sa première lettre, nous rappelle cela, 1 Pierre 21, c'est tôt. Il parle là du déluge, mais nous pouvons prendre aussi la mer Rouge. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience, littéralement d'une conscience rendue bonne envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. C'est une dimension qui se passe aussi à la nouvelle naissance et dans cette vie nouvelle. C'est-à-dire notre conscience, la boussole est remise en bon état de fonctionner. Et cela va nous servir, saisissant la grâce, de dire non, ça, c'est l'Égypte. Je n'y retourne pas, le péché ne règnera pas sur moi. Parce que je sais cette fois-ci ce qu'est le péché. Parce que ma conscience a été rendue pure par la vie de résurrection. Cette conscience rétablie dans son bon sens nous rend réellement libres. Mais libres de quoi? Libres de choisir. Et quelle est cette voie qui nous est proposée par Paul et qu'il nous invite à choisir? Renoncer au péché et vivre pour Dieu. Étrange rappel de la conclusion de Deutéronome, « Je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie ». Et ça, ça a été donné au peuple hébreu, mais qui ne pouvait pas choisir la vie. Parce que la voie qui lui était proposée était la loi, et la loi, la chair, nous empêche de l'accomplir. Mais nous, frères et sœurs, qui vivons à la fin des temps, qui sommes des nouveaux, qui avons reçu l'Esprit, cela est possible. Nous pouvons répondre à cette proposition de Dieu. Je mets devant vous, oui, nous sommes libres, mais alors nous sommes cette fois-ci réellement responsables. Aujourd'hui, nous, ceux qui sont nés de nouveau ont réellement une liberté de conscience parce que la conscience a été remise en état. Mais il y a aussi une responsabilité. Sachant ces choses, que répondons-nous? On ne peut pas simplement se considérer comme mort au péché et en rester là. Sinon, nous cherchons à être parfait et à nous contempler. Mort au péché, oui, mais vivant pour Dieu. Nous avons reçu la vie par lui et notre vie maintenant, elle est pour lui. Elle est pour lui. le salut, et ce sera ma conclusion, qui consiste à ce que Dieu passe outre au jugement qui est prévu pour le monde impie, est accordé par pure grâce au moyen de la foi, et tout cela est un don de Dieu. À travers ce salut, notre conscience est rétablie selon les standards de Dieu et nous met cette fois-ci en situation de choisir. Frères et sœurs, tant que nous étions dans le péché, notre liberté était illusoire. Mais maintenant, nous sommes libres de choisir. Et Dieu attend notre réponse. On ne peut pas simplement être sauvé, frères et sœurs. Et on ne peut pas simplement être sauvé et dire « je vais rester quand même en Égypte ». Frères et sœurs, je vous en supplie, ça ne marchera pas. La chair est trop faible. Ou trop forte, ça dépend comment on va le considérer. Acceptons ce que Dieu dit, c'est fait, ça c'est accompli. C'est pas, nous avons été crucifiés, c'est plus à faire. Nous avons à le croire, ça fait partie des articles de la foi. Ça, ce n'est pas notre espérance, ça c'est ce qui est accompli. Acceptons cette mort elle opère. Paul, dans la deuxième aux Corinthiens, va dire chaque jour, la mort de Jésus agit en nous pour que la vie de Jésus agisse en nous. Et puis il insiste, la mort de Jésus agit en nous pour que la vie agisse en vous. Vous êtes morts, faites donc mourir par l'esprit les œuvres de la chair. Frères et sœurs, c'est ça. Notre appel. Ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que cela est possible. C'est l'appel ordinaire de tout chrétien né de nouveau. C'est l'appel ordinaire de tout chrétien né de nouveau. Ne nous contentons pas du salut. Le salut est la phase initiale du projet de Dieu pour nos vies et pour que l'on soit utile dans son royaume. Nous prions. Seigneur notre Dieu, veux vraiment te rendre grâce pour la parole que tu nous as laissée, Seigneur. Oui, tu ne nous as pas laissés orphelins, Seigneur. Tu nous as envoyés le Consolateur, le Saint-Esprit, mais aussi il est notre instructeur, Seigneur, parce que c'est par le Saint-Esprit que tu as voulu que ta parole, tes commandements, qui sont vie pour nous, soient appliqués à nos cœurs. Seigneur, merci pour ce si grand salut. Merci, Seigneur, parce que par ta résurrection, tu nous donnes l'assurance que tu nous ressusciteras au dernier jour, que nos corps mortels, nos corps sous l'emprise, marqués encore par la puissance du péché, Seigneur, ils seront transformés. Ils deviendront, ils auront une nature incorruptible, mais d'ores et déjà, Seigneur, par les arts de l'Esprit, par l'Esprit que tu as déposé en nous, par la révélation de ta parole, tu nous donnes de marcher d'une manière sainte, Seigneur, d'une manière, Seigneur, oui, d'une manière sainte, d'une manière séparée, Seigneur, de l'esprit du monde, Seigneur. Seigneur, je te prie vraiment que ces choses viennent dans nos cœurs, que alors ce parfum, ta vie, Jésus-Christ, puisque tu vises en nous par le Saint-Esprit, ne soit pas voilé, Seigneur, par des désordres. Que ce soit toi qui règnes et que le péché ne règne pas, Seigneur. S'il nous arrive, Seigneur, de chuter, oui, nous savons que ta grâce, ton sang, est suffisant pour nous purifier de tout péché, pour nous relever, Seigneur. Mais ce n'est pas là la marche ordinaire que tu veux pour tes enfants. Seigneur, je te prie que cette victoire que tu as remportée par ton passage au tombeau, parce que tu as saisi la clé du séjour des morts, et parce que tu es ressuscité, que nous puissions saisir cette victoire, elle est en toi, elle n'est pas hors de toi, elle n'est pas la nôtre, elle est la tienne, mais tu nous donnes de la saisir. Ce matin, Seigneur, que plusieurs saisirent ces choses et que, Seigneur, ta parole, ton serviteur a pu apporter, Seigneur, puisse faire son effet, qui est un esprit de révélation dans les cœurs, pour que des véritables vies de victoire soient multipliées au milieu de nous, Seigneur, et pour l'extension de ton royaume, tandis que c'est le temps de la grâce. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé. À toi seul, soit la gloire au siècle des siècles. Amen.